Bonjour, Noël. C'est vrai, quel sujet magnifique de nous rappeler la naissance de notre Sauveur, la naissance de notre Seigneur, la naissance de Jésus. Et je vous invite pour, avant de lire les versets de la naissance de Jésus, je vous invite à lire quelques prophéties qui ont annoncé cette venue de Jésus et qui sont donc pour le coup dans l'Ancien Testament. Et je vous propose de lire trois prophéties qui annoncent la naissance du Messie. Et je vous invite à poser tout d'abord dans quel contexte historique ces prophéties ont été données. C'est vrai qu'on les lit souvent, on les connaît généralement bien, mais on ne sait pas trop à quel moment est-ce qu'elles ont été données, puis surtout dans quel contexte par rapport au peuple juif. Alors juste pour vous rappeler des bases, David... Vous vous rappelez le roi David, c'était aux environs de l'an moins 1000 avant l'ère chrétienne. Moins 1000 David. Salomon, son fils, a vécu aux environs de moins 950 ans avant l'ère chrétienne. En moins 931, Salomon décède et le royaume est divisé en deux, tout simplement parce que les tribus du nord d'Israël, se sont révoltés contre la maison de David, donc contre la lignée de David, Salomon et ses descendants. Donc il y a eu d'une part le royaume du Nord, communément appelé royaume d'Israël, et d'autre part le royaume du Sud, qu'on a nommé le royaume de Juda. Ces deux royaumes ont vécu des hauts et des bas, comme c'était déjà le cas avant qu'il y ait cette séparation, il y avait des hauts et des bas en dents de scie. Un coup, ça montait, il se rapprochait de Dieu, et ensuite, patatrac, il s'éloignait de Dieu, et les malheurs arrivaient, et puis, il reprenait le dessus, il se rapprochait de Dieu, et ça allait mieux, ainsi de suite. Ainsi de suite, jusqu'à ce que les deux royaumes aient été complètement détruits, à deux moments différents. Le royaume d'Israël, donc le royaume du Nord, a été détruit en moins 722. Et le royaume de Juda en moins 586. Donc c'est vrai qu'au regard de l'histoire du peuple juif, finalement les durées de ces deux royaumes étaient relativement courtes. 210 ans pour le royaume du Nord et 345 ans environ pour le royaume du Sud. Ésaïe, dont on va lire des prophéties, Ésaïe, lui, a vécu aux environs de 950, de 750 avant Jésus-Christ à 681, à moins 681. Il était donc à Jérusalem, puisque Ésaïe a vécu à Jérusalem. Il était à Jérusalem, donc au royaume du Sud, au moment où le royaume du Nord, le royaume d'Israël, était déporté et détruit. C'est donc là le contexte dans lequel Ésaïe a vécu. Et dans ce contexte, il a eu ces prophéties qui, de façon plus générale, étaient un rappel à remettre Dieu à la première place. Et en plus de ce rappel de mettre Dieu à la première place, il y avait ces prophéties sur la venue de Christ, le Messie. Et c'est vrai que, c'était un magnifique message qui était donné pendant ces temps qui n'étaient pas du tout évidents pour le peuple juif. Tant de difficultés, tant d'éloignements, tant de rapprochements, et ainsi de suite. Alors, on lit tout d'abord dans Ésaïe 7, le verset 14. On va donc lire deux passages d'Ésaïe. Tout d'abord, Ésaïe 7, 14. Alors, Ésaïe annonce à Akaz, le roi de Juda, du moment, que le roi de Syrie va venir attaquer Jérusalem. Mais il lui annonce cela en le rassurant, parce que en même temps qu'il lui annonce que le roi de Syrie va venir, il le rassure en prophétisant que Jérusalem ne sera pas prise à ce moment-là. Et il lui propose de demander un signe à l'Éternel, pour prouver que la prophétie qu'il lui donne est juste. Mais Akaz ne veut pas de signe. Il ne veut pas de signe parce qu'il ne veut pas provoquer l'Éternel. Et c'est à ce moment-là qu'Ésaïe lui dit, Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Et puis, un petit peu plus loin, en Ésaïe 9, on lit une autre prophétie plus précise et qui nous montre qu'il y a un contexte de ténèbres à ce moment-là. Une prophétie plus précise concernant la naissance du Fils qui amènera la lumière. Ésaïe 9, les versets 1 et 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et puis on lit aussi les versets suivants, en tout cas le verset 6. « Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Je vous rappelle qu'ils étaient dans ce moment où ils étaient divisés et le royaume du Nord a été successivement envahi, était sur le point d'être détruit. « Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Et là, c'est vrai qu'on peut remarquer que dans cette phrase, dans ces versets, il y a une succession de temps différents. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né, c'est le présent. C'est comme si c'était déjà fait. Sa venue est une certitude, il n'y a pas de doute à avoir à ce sujet, Dieu l'a déjà décidé, c'est déjà quelque chose de théoriquement accompli, quelque chose qui est décidé, qui est irrévocable de la part de Dieu. Et puis ensuite, un fils nous a été donné, là aussi, sa venue est arrêtée, Dieu l'a décidé. On l'appellera, c'est le futur, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Si sa venue est certaine, elle est en revanche pour plus tard. Elle se réalisera pour Ésaïe, elle se réalisera, c'est certain, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et je vous invite à chanter maintenant un autre chant, Lumière du monde, qui nous rappelle justement que Jésus-Christ est la lumière du monde qui est venue dans les ténèbres.
Ouvre les yeux. voici pour louer, te voici à tes pieds, te voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est monté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi.
Et puis, on va lire aussi une autre prophétie que l'on trouve dans le livre de Michée. Alors, Michée, il a vécu au même temps, à peu près à la même époque qu'Ésaïe. Il a vécu un petit peu moins longtemps, donc il a commencé un petit peu plus tard, il a fini un petit peu plus tôt. Et on lit en Michée 5, les versets 1 à 4, donc en fait, Michée, il était dans le même contexte que celui d'Ésaïe. Et toi, Bethléem Ephrata, tu es petite parmi les villes de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Le verset 2 commence par « C'est pourquoi il livrera son peuple ». Et cela fait référence au fait que le roi d'alors, on l'a dit tout à l'heure, le roi d'alors qui était Akaz, était lui un exemple d'éloignement de Dieu en Juda. Mais dans ces versets, on voit qu'il y a tout de suite la promesse qu'il y aura un libérateur dans la personne de cet enfant qui va naître. On lit maintenant une autre prophétie qui a été donnée par Jérémie. Alors Jérémie, lui, il a vécu à la fin du royaume de Juda. Il a vécu de -627 à -580. Donc, à ce moment-là, le premier royaume, donc le royaume du Nord, était déjà détruit, et c'était vraiment la fin du royaume de Juda. Il y a eu 3 invasions babyloniennes avant la destruction du royaume de Juda, et c'est donc à la dernière de ces invasions babyloniennes que le royaume de Juda a été détruit. Et donc c'était pendant, entre ces différentes invasions, que Jérémie a vécu. Et on lit en Jérémie 23, les versets 5 et 6, « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Et je vous invite maintenant à lire les versets dans le Nouveau Testament, les versets qui nous expliquent la naissance de Jésus. Et donc, il faut bien comprendre qu'après les derniers livres de l'Ancien Testament, qui sont chronologiquement les livres d'Esdras, de Néhémie et de Malachie, Après ces prophètes-là, ou après ces livres, il s'est ensuite écoulé 4 siècles pendant lesquels il n'y a plus eu de prophètes. Plus de prophéties, plus de révélations. C'est comme si Dieu n'existait plus. C'est le silence total de la part de Dieu. Et puis, la naissance de cet enfant promis, tant attendu depuis si longtemps, que plus beaucoup de personnes ne l'attendent à ce moment-là. Mais il y avait quand même certaines personnes qui l'attendaient. Et je vais laisser Anne-Marie Laplace, qui va nous lire d'abord dans Matthieu, et puis ensuite dans Luc.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. On va encore chanter un chant. Aujourd'hui, le roi des cieux.
Demeurez des bergers qui gardent la nuit.
Après avoir vu le petit enfant, les bergers racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui.
C'est quand même surprenant de voir le contraste qu'il y a entre la grandeur et la puissance de Jésus-Christ et cet enfant dont nous fêtons la naissance. Dieu fait homme. Et nous allons maintenant partager la scène. Ah oui, alors j'ai oublié, il y a encore un chant. Il y a encore un chant. Oui, le chant « Minuit chrétien ».
Une étoile
Et maintenant, nous allons partager la scène. C'est vrai que partager la scène nous rappelle que l'enfant roi, Jésus-Christ, le Messie, lui qui est venu parmi nous pour partager notre nature humaine, il est venu dans un but bien précis, dans le but de donner sa vie. Donner sa vie. Et ce n'est pas par hasard qu'il est mort, et encore moins par hasard qu'il est ressuscité 3 jours après. Non, il est mort. Il est mort parce qu'il a donné sa vie pour nous sauver. C'est lui qui l'a donné sa vie. C'est lui qui a accompli ce miracle, en fait. En nous rappelant sa naissance dans la crèche, nous nous rappelons aussi la raison de sa venue. Nous ne nous arrêtons pas à l'enfant qui est venu, mais voyons au travers de l'enfant Jésus, le Messie. Le seul chemin pour entrer en contact avec Dieu. Voyons au travers de l'enfant Jésus celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est vrai, n'est-ce pas fabuleux d'avoir un Dieu si grand qui a connu notre nature humaine de façon si complète, qui nous a tendu la main de façon si précise et qui est si proche de nous à chaque instant. Et n'oublions pas qu'en partageant ce repas symbolique, nous annonçons aussi sa prochaine venue, venue en gloire, pendant laquelle il accomplira les autres promesses qui ont été données. Ce repas, bien sûr, est réservé à ceux qui se sont appropriés le salut que Jésus-Christ nous offre. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas compliqué, vous laissez simplement passer le pain et le jus de raisin à votre voisin. Alors j'invite 2 personnes... Si 2 personnes veulent bien venir pour faire le service, je n'ai demandé à personne, donc que 2 personnes se sentaient libres de venir partager ce pain et ce jus de raisin.
Seigneur, merci pour le rappel de ces prophéties ce matin. Merci pour le fait que tu es venu sur cette terre à Noël, Seigneur, humblement. Merci aussi pour ta vie, Seigneur, qui pour nous est un exemple et on veut faire du mieux d'être comme toi, Seigneur. Et merci surtout pour cette mort à la croix. Merci pour Ouais, ce sacrifice que tu as fait pour nous sauver et pour aussi nous donner accès directement à toi, Seigneur. On peut te parler, on peut te louer ou t'adorer, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour vraiment ta grandeur et pour ton immense amour pour nous, Seigneur, et pour ce sacrifice. Amen.
Et c'est maintenant Charlie qui va prier pour ce jus de raisin qui symbolise le sang de Christ qui a été versé à la croix pour notre salut.
Oui, Seigneur, c'est vraiment un privilège de te connaître et de pouvoir nous rappeler maintenant par ce vin que tu as versé ton sang à la croix pour nous sauver, pour nous donner la vie. Et nous te remercions pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Et tu veux aussi parler à ceux qui ne t'appartiennent pas encore. Et tu veux les bénir et les attirer à toi. Merci, Seigneur, pour ton amour, parce que tu transformes les vies et tu changes aussi les circonstances, Seigneur. Merci, nous te bénissons et nous t'adorons. Amen.
Je vous invite à partager les annonces. Alors tout d'abord pour le programme de la semaine, il n'y a pas grand chose, c'est une semaine de vacances. Mardi soir, on vous propose un culte en commun, un culte de Noël, en commun avec l'église de Crosswood. Donc c'est à 17h, c'est chez eux, c'est à Crosswood, ils nous invitent. C'est une première. Ce sera un culte moitié en anglais, moitié en français. Donc on n'a pas d'excuses. Et je pense que ce sera vraiment un moment riche et béni et sympa de partager ce moment avec d'autres chrétiens, ici dans le Pays de Gex. Dimanche prochain, notre culte, donc à 10h30 ici, aussi un culte particulier puisque c'est un culte de partage. C'est aussi le dernier culte de l'année. Alors, si vous avez vécu des choses particulières avec Dieu cette année, n'hésitez pas à les partager avec les autres. Si vous avez vécu des choses différentes ou des choses, une expérience particulière, c'est toujours enrichissant de partager ce qu'on vit avec Dieu, avec les autres. Et puis ensuite, ce sera suivi d'un repas en commun. Alors je vous propose un repas canadien. C'est vrai que ce n'est pas toujours clair. Pique-nique, repas canadien. Donc on dit repas canadien, comme ça c'est clair pour tout le monde. Une annonce un petit peu en avance parce que ça a été défini dernièrement. Lors de la semaine de prière universelle de l'Alliance évangélique, il y aura une soirée de prière en commun avec les différentes églises qui participent à la pastorale du Pays de Gex. Et ce sera donc le mercredi 8 janvier. Mercredi 8 janvier à 20h ici chez nous. Et donc, il y aura différents intervenants. Ce sera, je pense, assez intéressant. Ce sera centré sur ce qui réunit les différentes églises ici dans le Pays de Gex. Les choses qui ont été vécues en commun, entre autres, pendant l'année qui se termine. Voilà pour les annonces concernant le programme. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ? Alors, le 31 décembre, oui, il faut prendre contact avec Pierre. Pierre et Déborah, c'est eux qui vont organiser. Ils ont déjà pris, il y a déjà des personnes qui les ont contactés, il y a déjà un certain nombre de personnes. Donc, il y a quelque chose qui se fera et en fonction du nombre, ça se fera soit ici, soit chez eux. Voilà, donc, si vous voulez partager la soirée du 31 décembre, prenez contact avec Pierre. Voilà. Maintenant, des nouvelles des uns et des autres. On voit que Mike est parmi nous ce matin. On est content de te revoir. On pense à toi. On pense beaucoup à toi. Que Dieu continue de te conduire, de te bénir aussi dans tes décisions. Continuons de penser à la famille Morand. C'est important aussi de les soutenir dans nos prières. On a eu des nouvelles de Thiago, le jeune frère de Lydia. Il va mieux, il est sorti des soins intensifs, mais sa situation de santé demeure compliquée et surtout préoccupante. Elle nécessite toujours et encore nos intercessions auprès de notre Dieu pour qu'il le rétablisse, notamment concernant une importante infection pulmonaire qu'il a encore, suite à son accident. Hélène Tadford se remet lentement de son opération. Brian et elle probablement vont partir la semaine prochaine chez la sœur d'Hélène, donc dans le sud, dès sa sortie de l'hôpital. Prions pour eux pour que ce soit vraiment un temps de ressourcement, de reconstruction pour eux au niveau physique, qu'ils puissent vraiment se ressourcer. Pensons aussi à Mariano, le papa de Nelly. Donc la première opération du cœur s'est bien déroulée cette semaine. Mariano a pu rentrer. Une deuxième intervention est prévue en février, donc continuons de prier pour lui. Que Dieu le garde, le fortifie aussi pour, en vue de cette opération, et qu'il le garde aussi avec sérénité. Guylaine et Jacques sont à la maison, ils sont chez eux. Guylaine est fatiguée. Ils peuvent maintenant avoir des visites. J'ai appelé Guylaine hier, elle disait que ça va bien. Avec les fêtes, pour le coup, le prochain rendez-vous médical, ce sera le 7 janvier. Donc ils sont tranquillement à la maison, ils peuvent recevoir quelques visites, peut-être pas trop en même temps, peut-être leur passer un petit coup de fil avant pour voir si ça va, mais c'est vrai que c'est pas simple non plus de rester seul à la maison. Donc un petit coucou, je pense, leur fera plaisir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose concernant les santé des uns et des autres? Il me semble pas, mais si quelqu'un a quelque chose à partager... Si ce n'est pas le cas, alors il reste encore quelques décors à vendre, au fond, vers la librairie des décors de Noël. C'est encore juste le dernier moment pour les acheter, après ce sera trop tard. Oui, donc ces décors ont été faits dans l'église et donc sont à vendre pour soutenir une action de porte ouverte pour les chrétiens en Syrie, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre quelques sous là, c'est pas pour nous, c'est pas pour les garder, c'est pour les partager avec d'autres qui en ont besoin. N'oubliez pas non plus les calendriers, la nouvelle année est bientôt là, bon, il y a encore dimanche prochain, mais enfin, il reste encore quelques calendriers, c'est bien de pouvoir les partager. Je vous invite, pour la bénédiction, je vous invite à partager encore un chant, un dernier chant, que ta gloire descende en ce lieu. C'est vrai que c'est bien, je trouve, de partager ce chant, de se rappeler que la venue du Seigneur soit l'occasion pour nous, pour notre Dieu, de manifester sa gloire parmi nous. Et c'est vrai que dans ce chant, on va chanter « Créateur et Père, déploie ton plan souverain, déploie ton plan souverain ». C'est vrai que cette venue de Jésus-Christ, qui est le centre de ce plan souverain, soit vraiment pour nous un moyen pour manifester la gloire de Dieu parmi nous.
Thank you.
Oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et que nous voyons sur terre la gloire de ton Fils. Amen. Bonne semaine, bon Noël à chacun.